Donc je vais vous parler, je vais aborder le sujet de la pureté. J'ai donné comme titre « Anthropologie des humeurs et loi de la pureté » et je vais essayer de tenir ce pari, même si, au fond, je pense structurer ma communication plutôt autour du discours du masculin et du féminin, sur le féminin et sur la pureté. Mais je vais faire quand même une introduction sur les humeurs, plutôt, plus précisément sur le sang, ce qui n'est pas sans rapport à la norme, puisqu'on va remonter ainsi au texte canonique, à la Bible et au Talmud, textes qui sont à la source de la codification ultérieure de la norme dans le judaïsme. Alors, j'ai déjà introduit un concept, celui de norme, et je vais tout de suite ajouter le deuxième composant, tel que je vois, de ce sujet, qui est aujourd'hui la pureté, mais qui peut être autre chose, à savoir le vécu. Donc, fondamentalement, j'ai conçu mon exposé comme une mise à pas en opposition. Ça sera en opposition finalement, mais disons au départ un face-à-face entre la construction de la norme et le vécu des femmes. Le sujet est vaste, évidemment, il faut faire des coupes, il faut faire des choix, et j'ai fait le choix un peu opportuniste, mais je ne pense pas qu'il soit dénué de fondement épistémique non plus. Donc j'ai fait le choix de traiter, de vous montrer, de déconstruire un texte normatif, ce qu'on appelle un responsum, ou une réponse d'un rabbin, d'un possek, d'un décisionnaire du XXe siècle, de la moitié du XXe siècle. Donc la réponse de ce rabbin au sujet des questions de la pureté de la femme après l'accouchement. Donc ça serait le point de vue masculin, si vous voulez. Et le point de vue féminin, sans entrer dans les détails et sans analyser en totalité le document, mais je vais dire quelques mots du regard féminin tel qu'il est exposé dans le film Terrora, qui est... Donc filmé en 2002, qui a eu plein de prix. C'est un film israélien et qui fait parler trois femmes sur les questions de la pureté en entrant, en filmant dans le mikvé et en filmant dans leur intimité aussi, dans leur, la maison et le mikvé. Donc ça, c'est l'introduction. Alors la norme, je disais que ce n'est pas dénué d'intérêt épistémologique et méthodologique de traiter d'un responsum comme cas d'espèce, puisque d'une part, je pense que j'ai expliqué ce que c'est le responsum, donc je vais utiliser ce terme technique, si vous permettez. Un responsum, d'une part, fait l'histoire de la question, fait l'histoire et passe par toute la tradition juive qui précède le décisionnaire. Donc, il nous fait un résumé. Donc, on a le status questionis du moment de l'époque du décisionnaire. Et d'autre part, utilise dans sa manière, dans sa rhétorique, dans sa technique, utilise les responsables correspondent à un modèle, à un topos. C'est sûr, il y a des aspects historiques, on ne va pas les gommer, mais chaque décisionnaire s'inscrit dans son temps. Ceci dit, il me semble quand même intéressant de voir sur un cas comment on élabore cette norme je peux appeler ça le judaïsme, peut-être. On discutera si je peux appeler ça le judaïsme ou je dois parler d'une communauté juive précise, territorialisée et circonscrite temporellement. Alors, je disais que je vais faire un petit excursus dans les textes rabbiniques, dans le Talmud précisément, Parce que le Talmud traite, donc le sujet de la pureté, donc je ne vais pas parler de la pureté en général, je vais parler de la pureté après, de la femme après l'accouchement. Et le lien avec le masculin et le féminin se fait de cette manière-là, à la fois par l'aspect symbolique et l'intervention du sang, toute la symbolique construite autour du sang. Et donc le Talmud problématise, thématise cet aspect en discutant la durée de l'impureté de la femme après l'accouchement. Alors la différence se fait que... entre l'accouchement d'un garçon et l'accouchement d'une femme, la durée n'est pas la même. La durée, disons, instituée n'est pas la même. Pardon. D'une fille. D'un garçon et d'une fille, oui. N'est pas la même. Et la question est posée à travers, donc, dans le traité Nida par Rabbi Ishmael. La question est posée, donc, quel est le temps d'impureté quand on fait une fausse couche? Quand on fait une fausse couche d'un garçon, c'est 40 jours. Quand on fait une fausse couche d'un garçon, d'une fille, c'est 80 jours. Et Rabbi Ishmael, le Talmud, essaie d'expliquer tout ça. Alors, les explications ne sont pas anatomiques, pas biologiques. On n'a pas cette connaissance-là, pas empirique, sont d'ordre symbolique. Enfin, on essaie d'avancer des hypothèses. Et Rabbi Ishmael relie cette durée de l'impureté, de la durée du façonnage de l'embryon. Autrement dit, il dit, comme le Lévitique prescrit une durée d'impureté et de pureté après l'accouchement d'un garçon, qui est identique avec la durée de façonnage d'un garçon dans le ventre de sa mère, donc l'impureté et le façonnage sont mis en relation. Et sont mis en relation par la quantité de sang, en mesurant la quantité de sang qui s'écoule. Plus il y a de sang, plus c'est long. Ou alors, on peut dire, plus il y a de sang, plus on a besoin de sang pour fabriquer un garçon ou une fille. Alors, ça, c'est le point de vue, c'est le point de vue rabbinique. Disons que c'est le point de vue surtout de Rabbi Ishmael, avec qui n'est... Le Talmud enregistre, nous transmet aussi beaucoup de controverses à ce sujet, mais il me semble intéressant déjà de poser, disons, d'avoir cette image de la distinction entre la fabrication du masculin et du féminin. D'une part, le rôle du sang et la déduction qu'on fait à partir de la durée de l'impureté. Bon, autant vous dire qu'il n'est pas le seul dans l'Antiquité, parce que Hippocrate fait la même chose. Il déduit la durée du façonnage de l'embryon masculin-féminin à partir de la quantité de sang qui s'écoule à l'accouchement. Dans la tradition juive, on a des interprétations, on a une herméneutique où on essaie d'expliquer de façon... herméneutique, donc par des moyens littéraires, on essaie d'expliquer cette différence en disant que Adam a été construit, façonné d'abord et une semaine après Ève. Donc il y a la durée de fabrication était double. Donc ça c'est une version, et puis on a chez Philon aussi, ça c'est chez Philon, et puis dans un livre, le livre des Jubilés, on a l'entrée dans le jardin d'Éden. Alors la durée des 40 jours, c'est que Adam entre en premier, c'est dans le jardin d'Éden, et la femme entre après à 80 jours. Voilà, ça c'est pour donner un peu le contexte. Disons la halakha. Bon, la halakha, c'est la jurisprudence et la loi juive, celle qui se développe dans le Talmud et après le Talmud. Alors, toute la halakha juive va garder cette distinction entre durée de fabrication de garçon, durée de fabrication de la fille, et va s'interroger sur... mais par contre, il va y avoir des discussions... des différences de point de vue sur la durée de la période d'impureté. Ensuite, toute cette discussion est basée en fond sur le Lévitique, deux versets du Lévitique. Alors je vais. Pardon. Deux versets du Lévitique. Pour le garçon, il s'agit. La femme, elle sera impure pendant 7 jours s'il accouche d'un garçon. Mais ce n'est pas tout, parce que le Lévitique nous ajoute un passage qui prête à confusion et donc à interprétation. La femme restera encore 33 jours à se purifier de son sang. En fait, c'est reste dans sa pureté. Alors, certains vont interpréter ceci comme durée, comme période pure, et certains décisionnaires vont, qui sont plus rigoristes, vont interpréter cela comme durée d'impureté. Donc, on a là déjà une distinction. Et pour la fille, il s'agit, le Lévitique dit ceci, la fille sera impure pendant 2 semaines, comme au temps de son, comme une nida, comme une femme, pendant son indisposition menstruelle, et elle restera 66 jours à se purifier de son sang. Bon. Encore une fois, c'est une période de 66 jours que certains décisionnaires considèrent comme sang pur, dam tahor, ou tohar, pardon, et d'autres vont considérer que c'est toujours du sang impur. Bon, des discussions, est-ce que ensuite on a des discussions anatomiques, physiologiques, est-ce que le sang provient de la même cavité de l'utérus ou de deux cavités différentes, ou alors est-ce que le sang change de nature pendant ces 33 jours ou 66 jours. Ça, c'est pour dresser un peu le tableau général, la base de discussion, et pour remplir mon contrat sur les humeurs. Bon, il y aurait de quoi parler sur les humeurs, parce que la femme est impure aussi par sa salive, par son urine, par ses larmes, etc. Donc, il y aurait de quoi développer, mais je ne vais pas entrer ici dans cette discussion-là. Je voudrais donc passer rapidement à mon responsum. Et je vais vous lire la question. À ma connaissance, c'est quand même un des rares responsum qui traite de la durée de l'impureté, disons contemporain ou récent. J'ai fait une recherche sur la base de données de Bar-Ilan. Bon, c'est sûr que les recherches doivent être affinées parce que l'orthographe change, donc il faut faire plusieurs recherches, mais disons que je n'ai pas trouvé de décisionnaire qui traite directement de cette question-là. Par contre, vient d'être publié en 2008 un recueil de responsables d'un rabbin qui s'appelle Isaac El-Maleh, qui a vécu d'abord en Algérie, première moitié du XXe siècle, et qui ensuite est arrivé en France, et il a gardé son prestige, il donnait des conférences. C'est un décisionnaire, c'est une autorité pour sa communauté et pour sa génération. Alors lui, il a un texte qui s'intitule « Quelle est la durée de l'impureté après la naissance d'un garçon et après celle d'une fille ?» Et quelle est la coutume en ce domaine? Je vais vous présenter la question, le cas qu'on lui soumet. Et c'est lui qui dit. On m'a posé la question suivante. Une femme a accouché d'une fille. Donc tout ça, c'est en Algérie. C'est signé à Tlemcen. Hein, maintenant, le cas, on ne sait pas d'où il vient. Enfin, ce n'est pas mentionné, la femme... Au bout de 26 jours, quand son mari voulut l'obliger à s'immerger dans un bain rituel pour se purifier, elle répondit que c'était impossible parce que, selon une tradition familiale, une femme qui accouche d'une fille ne peut procéder à une immersion avant le 80e jour, ou au moins avant le 60e jour qui suit l'accouchement. Donc on voit là, déjà l'homme veut obliger la femme de s'immerger. On présente, la femme invoque une tradition familiale. Alors, le texte n'est pas publié en hébreu, mais on soupçonne fortement qu'il s'agit de minhag, c'est la coutume. Alors, c'est là où j'avais posé hier une question sur la coutume, puisque comme on va voir, la coutume est source de loi, de droit dans le judaïsme, mais elle ne va pas sans problème. Et là, on a justement, on est devant un cas de contestation de la coutume, d'essayer de contourner l'autorité de la coutume. Alors, bon, le délai, donc la femme, et cette coutume, elle est confirmée par Joël Barthloul dans son article sur la pureté des femmes qui traite de la même époque, les années 40. C'est les femmes qu'elle a interviewées parlent de cette coutume-là, c'est-à-dire que la femme, pour l'Algérie, c'est-à-dire que la femme doit attendre 80 ou 60 jours avant l'immersion et donc le retour à la vie sexuelle, puisqu'au fond, c'est de ça qu'il s'agit. Je reviens à mon rabbin. À la suite de cette discussion, le mari en vint à la frapper. Et ils ne se parlèrent plus, donc c'est action-réaction. Pendant 2 jours, jusqu'à ce que les voisins parviennent à rétablir la paix au sein du ménage. Mais la femme persista dans son refus. Donc la femme se revendique de la coutume, elle persiste dans son refus. Mais elle s'est déclarée prête à consulter une autorité rabbinique et à accepter sa décision. Quand ils arrivèrent chez moi, j'ai essayé de parler de manière diplomatique au mari, en lui disant qu'il ne serait pas convenable qu'elle procède à son immersion avant le 60e jour. Donc le rabbin a l'air de confirmer d'aller dans le sens de la coutume. Mais le mari a des moyens d'imposer sa volonté. Aussitôt, il cria qu'il avait des pollutions nocturnes à cause de situations insupportables. Donc c'est le mari essaie de prendre le dessus de la situation. Alors le rabbin quitte la manière diplomatique, il essaie d'appliquer une solution réaliste, donc pas conventionnelle mais réaliste. Il dit, je demandais alors à la femme si elle avait encore des saignements, donc on cherche à voir s'il y a du sang, indépendamment de la loi ou de la coutume, est-ce qu'il y a du sang ou pas. Elle me répondit qu'elle n'en avait plus depuis 10 jours. Aussitôt, je lui dis qu'elle pouvait s'immerger dans un bain rituel au bout de 27e jour avant l'accouchement. Bon, cette durée, je ne sais pas d'où il la sort. J'imagine que c'est le moment où ils arrivent en consultation chez lui. Parce que ce n'est pas un chiffre. Et c'est là où on arrive justement à la construction de la norme et à tout un travail masculin, disons. Une fonction masculine dans la communauté juive. Mais après avoir accordé cette autorisation, je fus saisie de tremblement, car selon une tradition que j'avais reçue de ma jeunesse, une femme qui a accouché d'une fille doit attendre 80 jours avant de s'immerger dans un bain rituel. C'est pourquoi j'ai cherché une confirmation de ma décision. Et c'est là où son responsum commence. C'est une décision a priori. Il a formulé sa décision, mais il l'argumente a posteriori plutôt. On pense qu'il y a un biais déjà, puisqu'il va forcément essayer de confirmer sa décision. On ne peut pas faire un procès d'intention, mais enfin. J'ai cherché confirmation de ma décision dans les quelques livres qui se trouvaient à ma disposition. Il n'y avait pas de concordance ni de base de données à l'époque, donc c'est son savoir apporteur, disons. Même s'il n'y a pas lieu de faire nécessité vertu, ça c'est étrange quand même. Pourquoi il n'y a pas de faire nécessité vertu? Parce qu'il doit argumenter. Normalement, un possèque argumente sa décision. Donc, il n'y a pas lieu de faire de nécessité vertu. Ce ne doit pas être considéré non plus comme un défaut. Voici la réponse que j'ai donnée avec l'aide de Dieu. Alors, cette réponse est constituée en deux parties. D'abord, il cherche les arguments en faveur de sa décision. Et ce qui est intéressant, ce qui moi me paraît intéressant comme quelqu'un qui travaille sur les textes, la première réflexion, donc il commence sa réponse en se référant à un décisionnaire, donc c'est une recherche textuelle. On entre dans un domaine de recherche textuelle. Et la première autorité qu'il invoque, c'est le Tour. Alors le Tour, c'est un ouvrage qui... c'est un ouvrage en 4 parties, c'est un code de loi, et qui date du XIIIe siècle. Il ne va pas au Talmud. D'accord. Pourtant, le Talmud thématise cette, euh, ce sujet-là. Il aurait pu remonter au Talmud. Bon, c'est vrai que le tour est censé... Enfin, on dit que le tour donc, fait le résumé de toute la halakha qui lui précède. Néanmoins, la pratique... Bon, on aurait pu quand même retourner aux sources, disons. Aux sources premières. Non, il ne fait pas ça. Donc, sa première référence, c'est le tour... 13e siècle, et ces autres références sont, si vous voulez, dans la même lignée généalogique de cet écrit, à savoir que ce code de loi qui sera à la base du Shulchan Aruch, qui est le code de loi, qui est 16e siècle, qui est le code de loi qui fait autorité dans le judaïsme depuis donc, le 16e siècle jusqu'à aujourd'hui, qui est commenté, et il fera référence au Shulchan Aruch et à ses commentateurs. Il ne va, va pas ni dans l'herméneutique texte biblique, dans le Midrash, il ne va pas dans le Talmud, il va invoquer les autorités halakhiques, donc, et assez tardives. Alors, un mot... sur la séparation, enfin, est-ce qu'il fait une distinction séfarade-ashkenaz, on verra qu'il les textes qu'il invoque sont à la fois donc, le Shulchan Aruch c'est séfarade, mais il invoque aussi son commentaire ashkenaz. Et normalement, le Shulchan Aruch est aujourd'hui édité avec les deux, donc pour créer une impression d'universalité, non ? 10 minutes ? D'accord, bon, je vais passer bon. À la deuxième partie, à l'information de la décision. Il va essayer de démontrer que la coutume est illogique, hérétique, et qu'elle ne s'applique pas aux juifs. Il dit nous, juifs français et espagnols. C'est-à-dire que la coutume, elle s'appliquerait peut-être à des juifs étrangers. Bon, il invoque des textes d'Italie, il dit, mais nous, juifs, français et étrangers, on doit supprimer on doit expliquer que c'est une coutume illogique et hérétique, une coutume sadducéenne, dit-il. Et encore une fois, c'est l'autorité rabbinique qui compte. On est soumis à son autorité rabbinique. Il invoque aussi... Le principe, il essaie de contourner le principe selon lequel on ne permet pas à ceux qui ont interdit, donc on ne rend pas plus facile, plus laxiste, une loi qui était plus sévère. Et bon, il y avait des exemples quand même, mais je vais passer, parce que ça concerne aussi le rapport masculin-féminin, mais je vais juste passer à la conclusion de ce responsum qui... me paraît intéressant. Il dit « Néanmoins, la femme venue me consulter et a refusé de se purifier pour son mari. J'ai déclaré qu'on ne pouvait lancer la moindre accusation contre le mari. En effet, la coutume rigoriste de sa femme n'a certainement pas plus de poids que l'obligation de la Torah de résider à Sukkot dans la Soukha. » C'est-à-dire que cette obligation de la Torah n'est pas imposée à celui qui en souffre. Autrement dit, quand on peut ne pas respecter les mitzvot quand on en souffre, quand ils nous font souffrir. Et il fait un parallèle là, il dit de même, la femme qui refuse de s'unir à son mari lui occasionne une souffrance. Considérée comme rebelle, elle perd le droit de percevoir l'indemnité de rupture inscrite dans sa ketouba. Et je tourne mes regards vers le ciel pour qu'il me préserve de toute erreur. Donc finalement, c'est... on contourne la coutume pour ne pas faire souffrir l'homme. On arrive à contourner quelque chose qui semble avoir une autorité réelle pour ne pas souffrir l'homme. Bon, je vais juste rapidement passer. J'ai encore 5 minutes ? 3 minutes. Bon, 3 minutes, rapidement. Alors là, le point de vue féminin. Le point de vue féminin est différent parce que si l'homme est en quête d'argumentation et d'argumentation textuelle, la femme est en quête de sens. Alors, les trois femmes qu'on interroge, c'est intéressant, on a une femme, une discussion entre une femme orthodoxe pratiquante qui enseigne justement la première, enfin les règles de la pureté avant son mariage à sa fille. Et la discussion, c'est regarde comment c'est, pense à au sens de ce geste. Et la fille lui dit, mais il n'y a pas de sens, le cycle, c'est le cycle, il n'y a rien. Sa mère lui dit, mais pense au sens, mais sans définir le sens. Puis après, lui dit, regarde comment c'est beau. Qu'est-ce qui est beau? Il n'y a rien de beau. On est dans le mikvé, il n'y a rien de beau. Donc, on est dans une quête de sens. Ensuite, il y a une juive orthodoxe d'origine américaine qui... elle dit qu'elle est dans un état de rébellion, puisque ça la fait, parce qu'elle considère la halakha, surtout l'interdiction de toucher, de se toucher. Oui, excuse-moi. Oui. On a vu le film, donc on sait très bien le film. D'accord, bon, oui. Donc je disais le point de vue féminin, oui. Pour moi, c'était le film qui était dans le point de vue féminin. Alors, donc une juive américaine qui dit qu'elle est dans une phase de rébellion, et donc Mered, c'est la femme rebelle, et que l'interdiction de toucher, que son mari la touche, lui paraît inhumaine. Enfin, il y a une autre femme qui ne fait pas, enfin, qui intervient sans faire sans être personnage principal, mais qui dit. En Israël, le mikvé, aux États-Unis, le mikvé, c'est une fête, c'est la soirée des femmes. En Israël, c'est shimushit, c'est utilitaire. Le mikvé est utilitaire, ça n'a pas ce côté plaisir. Enfin, il y a une autre femme qui dit, moi je voulais faire comme c'est écrit. Alors, on a vu que l'écriture... est mouvante, on est sur un terrain glissant, donc se référer à l'écriture, donc c'est aussi pour moi quelque chose à interroger. Bon, rapidement pour conclure, il me paraît que l'homme, toute la réflexion masculine autour des questions de pureté et impureté se concentre sur le sang, la réflexion féminine sur l'eau. D'une part l'impureté, d'une part la pureté. Deuxième différence, on est, comme je le disais, d'une part dans une question d'argumentation, même si elle est biaisée, contourne, etc. Cherche à contourner. Et donc, on est quand même dans l'argumentation. Dans l'autre, on est dans une quête de sens. On pose la question, comme disait Annie hier, c'est comment on se construit l'identité à travers l'autre. Je dirais qu'on peut poser la question. Bon, moi j'ai fait une coupe restreinte, enfin j'ai fait une étude de cas, si vous voulez, mais ça me pose la question du comparatisme, de la pertinence du comparatisme. Qu'est-ce qu'on devrait étudier? Est-ce qu'on devrait étudier toutes les responsables, toutes les communautés? Qu'est-ce qu'une femme juive? Comment on va attaquer cet aspect-là de femme juive, femme musulmane à travers comment on fait le découpage en fait de nos terrains, disons. Voilà.